policing and criminalization, and by challenging.
Vaccination against COVID-19 is ongoing throughout Quebec. The combined effect of two doses ensures better efficacy of the vaccine, reducing the risk of getting and transmitting the virus. You'll also stay protected for a longer period of time. Coming to your appointment for the second dose of the vaccine is a must, whatever else is on your schedule. The second dose of vaccine is essential. A message from the Gouvernement du Québec.
Following is a previously broadcast program.
Bonsoir tout le monde, c'est Alex qui vous parle pour votre émission Café sur les ondes de CKUT. Je vous parle donc en direct de mon studio maison et ce soir, nous avons eu la brillante idée d'enregistrer une partie de l'émission par Zoom avec Anthony qui est en direct de son chalet. Hein?
On dit maison d'été ici.
Oh, maison d'été!
Nous sommes des aristocrates et maison d'été. Donc, je suis très bien, ceci étant dit.
Chanceux, on t'envie ici parce qu'à Montréal, on meurt de chaleur.
J'invite tout le monde à venir se baigner, on a une rivière quand même froide proche.
Ok, c'est entendu.
Mais je dis pas c'est où.
C'est bon. Ok, donc au menu ce soir pour l'émission, Esther B s'est entretenue avec le chercheur basé à Hong Kong, François Mouillot, à propos de son livre « Fractured Scenes, Underground Music Making in Hong Kong and East Asia », donc ouvrage qui explore la scène méconnue de la musique underground à Hong Kong.
Wow!
Et sinon, je vous propose d'explorer la programmation estivale de deux salles cinématographiques montréalaises, celle du cinéma public et de la cinémathèque. Mais pour commencer, Anthony va nous parler du film Beans qu'il a visionné pour nous hier soir.
Mais avant d'en discuter, commençons donc avec un petit extrait de la bande-annonce, une bonne manière de mettre l'eau à la bouche.
My name is Tehagadakwa. Tehagadakwa. Or you can call me Beans. Everybody does.
The occupation of an ancient pine forest on the Mohawk Reserve of Ganazadage is in its fourth month. The people here are protecting a burial ground from being leveled for a golf course expansion by the neighboring town of Oka.
What's happening? Daddy!
What is going on here?
We're taking the bridge.
Oh, hi! You want to use this bridge? This is Indian land!
Honey, you need to be able to stand up for what's important to you.
I want to be tough like you.
Okay. Prove it.
Raise your elbows. As long as you're punching, she can't.
Ow!
If you can't feel pain, then no one can hurt you.
Oh, my God.
What did you do?
We paid good money for those clothes.
But I like it.
Hey, sis. Who's your hot friend?
I'll drink that if you want.
Nash will drink it.
Donc, vous êtes de retour à 98.3 à l'émission Café CKUT. Donc, vous venez d'entendre la bande-annonce de Beans, un film qui est sorti aujourd'hui, ben en fait vendredi le 2 juillet. C'est le premier long-métrage de la réalisatrice Tracy Deer. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'elle par l'entremise de la série Mohawk Girls. Qu'elle a réalisé, 5 saisons, rien de moins.
Oh,
sinon, ouais, c'est vraiment une bonne série, Alex, je pense que ça serait ton genre. Sinon, je suis pas mal certain que vous allez entendre parler de plus en plus parler d'elle, puisque son film fait déjà beaucoup de vagues. Beans a clôturé les rendez-vous Québec Cinéma en mai et a obtenu 5 nominations au prix Écran canadien. Donc, qu'est-ce que raconte le film Beans? Eh bien, c'est d'abord une auto-fiction basée sur la manière dont Tracy Deer a elle-même vécu la crise d'Oka. Donc, le film est construit autour de la jeune ado Dega Ndakwa, qui, durant l'été 1990, rentre dans sa crise d'adolescence, en parallèle avec la crise d'Oka. Donc, les deux s'entremêlent. C'est vraiment un film sur l'adolescence et sur la crise d'Oka et comment que ces deux s'articulent-là. Ces deux choses-là s'articulent. Exactement. Donc, double crise. On suit donc une jeune fille de 12 ans, tout à fait attachante, qui, durant cet été-là, va voir quand même son innocence d'enfant et même sa conscience identitaire être vraiment malmenée. Elle va subir des injustices et des multiples actes de violence directe envers elle et son peuple. Donc, les deux s'entremêlent quand même. Comme vous le savez, la crise d'Oka est survenue lorsque la ville déclenche un projet d'agrandissement d'un terrain de golf sur une terre où se trouve un ancien cimetière Mohawk. Ces histoires-là, on la connaît souvent de loin et mettons pour ma part, c'est vraiment de manière historique, un peu froide. Comme bien des gens, j'ai écouté le documentaire d'Alanis Obonzawin, 270 ans de résistance. Mm-hmm. Donc là, la question sur laquelle j'avais le goût de discuter, c'est quoi l'art de ce film-là, de cette fiction-là? Comment mieux comprendre la crise à partir de ce film-là? Donc d'abord, c'est le fait que l'histoire est racontée sous le point de vue d'une jeune adolescente. Je pense que ça, c'est vraiment son originalité. On traverse donc la crise sous l'angle de la quotidienneté, tu sais, de la famille, et donc des humains qui subissent les événements, et non pas comme sur l'angle politique, institutionnel, un peu surplombant. Bref, ça l'humanise, ce que les gens ont vécu, loin des slogans et des rapports de force, tu sais, un peu abstraits. Donc, un autre bon coup du film, c'est son utilisation d'images d'archives. Ils sont souvent utilisés à des moments clés où la fiction, donc le film, devient particulièrement intense. Alors, lorsqu'il y a comme ces points d'intensité-là dans le film, les archives viennent nuancer, mais pas comme en diminuant ce que la fiction nous montre, mais vraiment à l'inverse, ça vient vraiment aggraver la réalité. L'effet est vraiment, vraiment intense. Donc, autrement dit, l'utilisation des archives expose littéralement que la réalité dépasse la fiction. C'est vraiment, vraiment un bel effet. J'ai trouvé ça vraiment bon. Je dois vous avouer que durant le film, il y a eu plusieurs moments que je trouvais que les scènes allaient peut-être trop loin. Et là, bang! On voit une archive qui est finalement encore plus intense que ce que montre le film.
Et trop là, loin dans la violence?
Exactement, c'est ça. Okay. Alex, tu peux t'imaginer l'effet que ça a eu sur moi, comme cette transposition-là. T'sais, je me suis demandé pourquoi j'avais le réflexe en moi de relativiser les moments intenses. Puis souvent que ces moments intenses-là, c'était des scènes qui montraient, mettons, la violence des habitants non-autochtones contre les membres de la communauté Mohawk. Donc là, je voyais de la violence des non-autochtones contre les Mohawks, puis là, je me disais, c'est donc bien intense. Puis là, l'archive, la réalité, est encore plus intense. Bref, je pense que le film m'a donné ce qu'on appelle une prise de conscience, de me demander pourquoi j'avais ce réflexe-là. C'était une bonne manière de me remettre en question, finalement. Donc, ceci étant dit, tout au long du film, on sent que la volonté de la cinéaste, c'est d'abord de proposer des chemins permettant un peu de sortir du cycle de la violence. On sent que Tracy Deer veut faire gagner la beauté à un certain point, puis la solidarité. Mm-hmm. Donc, pour finir, j'ai reçu ce film-là comme vraiment une invitation à continuer à m'informer sur l'histoire tellement cachée des Autochtones qui habitent au Québec, au Canada. T'sais, et si j'ose dire, peut-être surtout comme une invitation à continuer à assumer notre destin commun un peu. Mm. Comme on le sait, juste au Québec, il y a 11 nations autochtones. T'sais, ça fait 100 000 personnes qui sont nos voisins, là, nos voisines. Et la pire chose, selon moi, serait qu'on continue de faire assemblant qui n'existe pas.
Ouais.
Donc, heureusement, on voit que les choses changent. Je pense que oui. Et je pense que ça change vite et dans le bon sens. Alors ça, c'est quand même le bon côté. Ce film-là existe. Et un des bons sens, facile à aller, serait tout simplement d'aller à votre cinéma de quartier découvrir le beau film Beans de Tracy Deer. Donc, il prend l'affiche aujourd'hui. Ah, j'ai goût de dire en parenthèse, le lendemain de l'annulation de la fête du Canada, dans tous les bons cinémas du Québec. Donc, c'est ça. Ça sort aujourd'hui. Je vous encourage. Il annonce la pluie. Là. Allez-y.
Wow, merci, ça me donne absolument envie de l'écouter. Puis justement, pour rebondir sur cette visibilité autochtone, c'est un add-on, mais cette semaine, moi, je voulais vous parler de la musicienne Atikamekw Grunge, Laura Nikwe, dont son deuxième album Waska Matisiwin est apparu sur la longue liste du prix Polaris le 15 juin dernier. Cette nomination m'a permis de plonger dans son œuvre que j'ai trouvée très belle et très touchante. Et je pense qu'Anthony, tu en avais parlé hein, d'un single qui est paru juste avant son album.
Oui, il y a plusieurs semaines, quand son single est sorti, je l'ai écouté. Et quand son album est sorti, pour vrai, moi et ma copine, on l'a beaucoup, beaucoup écouté. Et fait à noter, je chante sans arrêt les paroles, mais tu sais, c'est en Atikamekw, là, je ne connais pas l'Atikamekw. Et je me sens comme quand j'étais un enfant et je chantais en anglais. Puis là, je me mets à radoter, mais j'embarque sans savoir pas tout ce que je dis. C'est vraiment hot.
J'adore. C'est excellent. Mais c'était un de ses buts à Laura Nikoué, en fait, de créer vraiment des chansons avec des airs qui restent dans la tête. Puis je pense qu'effectivement, parce que moi aussi, ça me fait ça me donne envie de fredonner. Donc, cet album, il est produit par Musique Nomade. Et après 3 années de dur labeur, Laura Nikoué l'a sorti, dans le fond, le 30 avril dernier. Sa voix rauque et rouillée se promène tout le long de l'album en rencontrant une polyphonie de voix, dont celle de Soleil Lonnière, E-A-T-C et Anaknid, toutes ayant en commun d'être femmes et autochtones. Donc, des apports vraiment intéressants sur plusieurs chansons.
Oui, dont une reggae, qui est vraiment, vraiment bonne.
Oui, qui est chantée aussi en Innu et en Atikamekw.
Ouais.
Elle collabore aussi avec le groupe Red Tail Spirit Singers, donc groupe de musique traditionnelle de powwow, très connu dans le monde autochtone, que la musicienne souhaite faire connaître dans l'industrie musicale québécoise. Donc, ça amène vraiment beaucoup de rythme à plusieurs de ses chansons. Puis, dans le fond, l'album il se divise informellement en 2 parties. Une première qui est plus rock et une deuxième plus mélodieuse. J'ai personnellement préféré cette dernière partie. Je ne sais pas pour toi, Anto.
Ouais. Ben, je dirais que la première est un peu plus pop aussi. Les verres d'oreilles, je trouve qu'ils se passent dans les premières chansons.
Ouais. C'est peut-être plus pop, mainstream, comme musique à laquelle je me rattache pas nécessairement, mais c'est quand même bon. Puis sinon, elle perçoit Waska Matisiwin, donc le nom de son album, qui veut dire à la fois cercle de vie, mais aussi cercle vicieux pour rappeler celui des mauvaises habitudes comme la consommation de drogue et d'alcool dans les communautés. Donc, elle perçoit cet album comme celui de la résilience dans lequel elle joue le rôle de la messagère qui raconte le beau comme le difficile. Toutes les pièces sont chantées en Atikamekw, donc qui est une vraiment très belle langue que nous n'attendons pas assez souvent. Puis vraiment, l'effet entre cette langue que j'avais jamais entendue auparavant et sa voix vraiment suave, rock, c'est vraiment très original. Et je vous conseille donc l'écoute de cet album et je vais vous laisser sur la douce ballade qu'elle a composée pour son enfant, la pièce Nit Kanik, mon enfant. Bonne écoute tout le monde.
No, Bonjour à tous et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Bien, aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il est déjà venu sur Café il y a plusieurs années. Et depuis, bien, le temps a passé. Il est déménagé en Hong Kong et il s'intéresse toujours aux questions de musique indépendante, distribution indépendante, musique expérimentale. Et nous avons avec nous François Mouillot. C'était pas un quiz, hein, cher auditeur. Donc, la dernière fois que tu es venu sur Café, c'était pour parler d'un livre que tu avais sur lequel tu avais collaboré avec des chercheurs de McGill et je crois interuniversitaire également. Et tu peux nous rappeler, François, le titre de ce livre?
Bonjour Esther, déjà. Le titre du livre, moi aussi, il faut que je me souvienne bien, c'était « Forme urbaine ». Donc voilà, le titre abrégé, c'était ça.
Oui, entre « Forme urbaine » et le nouveau livre sur lequel notre rencontre se base aujourd'hui, bien, il y a vraiment un des points intéressants à faire puisque tu poursuis une recherche sur la musique indépendante, expérimentale, avec un apport DIY, avec un angle cultural study. Donc, tu peux nous dire maintenant comment ce livre, tout en nommant le titre, a fait un pont plus aigu vers tes propres recherches à toi.
En fait, moi, les deux livres, pour moi, par rapport à mes recherches, sont très liés dans la mesure où, en tout cas, mes deux contributions au livre, puisque le premier livre, Forme urbaine, c'est pas moi qui l'ai écrit en totalité ou c'est pas moi qui l'ai édité en totalité, j'ai juste un chapitre dedans. Mais ma participation à ce livre-là est complètement liée à mon projet actuel avec le livre dont on est en train de parler, qui s'appelle Fractured Scenes, et qui prend comme objet d'étude en fait les pratiques de musique indépendante à Hong Kong et en Asie de l'Est de manière plus générale. Mais dans les deux cas, dans les deux livres en tout cas, l'intérêt c'est vraiment pour moi d'essayer de comprendre comment ces pratiques de musique dites indépendantes, expérimentales pour certaines, underground dans une certaine manière, comment ces pratiques-là finalement s'inscrivent dans la circulation de personnes au travers de différentes structures de villes précises, en l'occurrence Montréal et Hong Kong ou certaines villes d'Asie de l'Est, hein, en Chine ou au Japon. Donc en fait pour moi c'est vraiment un lien entre musique indépendante, culture urbaine et infrastructures qui permettent les pratiques culturelles dans un milieu urbain. C'est le lien vraiment entre ces deux parutions.
Mais, en tant que méthodologie, est-ce que c'est complexe d'avoir un bagage occidental et d'enseigner, se développer en tant que chercheur dans une université asiatique? Est-ce que avec votre équipe, tu as écrit avec un collègue, Damien
Charrieras, oui, on salue. Oui,
merci. Donc, est-ce que vous êtes posé des questions de méthodologie, à savoir où est vos points de référence? Est-ce que c'était difficile à structurer en tant que vos points de référence occidentales versus orientales?
Oui, ça c'est sûr que ça a été dès le départ une grosse question pour nous par rapport à ce livre, sachant qu'on est nous-mêmes pas natifs de Hong Kong ou même pas natifs du continent asiatique au sens large. Et on ne voulait absolument pas reproduire de dynamique colonial ou impérialiste ou néo-impérialiste en arrivant là en tant que chercheurs occidentaux positionné dans une ville en Asie et regardant tout ça au travers du prisme de notre expérience, parcours et privilège aussi, parce qu'en fait, en étant universitaire à Hong Kong, on a une forme de privilège dans la société hongkongaise malgré tout. Donc on ne voulait pas du tout que ça soit le filtre du livre. Et c'est pour ça en fait qu'on a choisi d'en faire d'abord une collection éditée, c'est-à-dire d'avoir vraiment plusieurs collaborateurs, ou en tout cas plusieurs écrivains dans le livre. Donc nous, on est seulement éditeurs, on a écrit une introduction, mais l'introduction n'a pas valeur de texte définitif du tout dans l'ouvrage, c'est juste pour ouvrir la conversation. Et après, ce qui fait vraiment le livre, en fait, c'est la diversité des chapitres, la diversité des perspectives. Et on a fait en sorte vraiment, ou en tout cas, on a essayé autant que possible d'inclure ce qu'on connaissait du terrain de ces musiques locales-là. Donc, c'est un terrain mixte avec des gens qui sont d'origine hongkongaise, des gens qui sont d'origine chinoise, des gens qui sont d'origine de différents pays occidentaux, on va dire comme ça. Et on a voulu vraiment que ce livre essaye de refléter cette diversité-là. Et bien évidemment, de s'assurer que toutes ces voix soient entendues et voix au chapitre. Et pour moi, c'est un des aspects qui est intéressant, c'est que certains des auteurs parlent des mêmes lieux, des mêmes pratiques, mais ils en parlent d'une manière des fois très différente et qui reflète leur propre parcours, leur propre point de vue. Mais donc, on a vraiment essayé justement de pas se mettre nous en avant, et en tout cas de pas se positionner nous comme experts de ce milieu culturel-là, mais plutôt de laisser parler les gens qui ont différentes expertises, différentes pratiques, différentes expériences.
Ah, c'est chouette, ouais. Et on pourrait dire que c'est un peu un travail d'ethnomusicologie.
En partie, oui, en partie, c'est sûr. Il y a une méthodologie ethnographique. En tout cas, c'est certain que dans un certain sens, le livre est le résultat d'un travail ethnographique au sens où Damien et moi, on est depuis des années en fait impliqués dans ce milieu-là à Hong Kong, puisqu'on connaît les gens personnellement, on va au concert. Moi-même, j'ai joué avec certaines personnes dans la scène ici. Donc, c'est une expérience de terrain finalement qui ressort dans le livre. Mais encore une fois, on ne présente pas ça comme notre travail ethnographique à nous. C'est plutôt le fait qu'on ait été ici, impliqué dans ces différentes scènes ou avec ces différents acteurs. Et après, on laisse dire aux gens ce qu'ils ont envie de dire et besoin de dire et leur perspective sur ces choses-là.
Oui, c'est intéressant puisqu'on connaît plus ici en Amérique du Nord la musique pop japonaise. Mmh. Elle a bien circulé quand même. Tandis que la musique hongkongaise, on la connaît moins. Est-ce qu'on dans ce livre-là, on peut comprendre pourquoi ?
En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'était la question de départ pour Damien et moi, je pense, du livre. C'était de dire finalement, quand on parle de musique indépendante ou de musique expérimentale en Asie, on pense, comme tu l'as dit, bien évidemment au Japon, parce que c'est un pays qui a eu un rayonnement international dans ces musiques-là et qui continue. On pense plus souvent même à la Chine, qui bien évidemment de par sa taille entre guillemets, et même si la Chine a une expérience ou une histoire différente par rapport à ces musiques-là, malgré tout est maintenant quand même une destination en Asie pour ça. On pense aussi aux scènes de l'Asie du Sud-Est souvent. Il y a plusieurs livres universitaires notamment qui ont fait état de ce qui se passe en Indonésie, aux Philippines, dans cette région-là en fait. On connaît à la limite presque un peu plus Taïwan aussi, et la Corée dans une moindre mesure. Mais en tout cas, pour nous, c'était la question de départ, c'était de se dire dans ce paysage de l'Est asiatique, finalement Hong Kong, comme tu l'as dit, on ne connaît pas. Et pourtant, il y a des choses qui se passent ici. Alors c'est à une échelle moindre, on va dire, comparé à une ville de taille équivalente ou même plus grande qui pourrait avoir plus d'activités en musique indépendante ou expérimentale que Hong Kong. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à Hong Kong. Et c'était cette idée de dire, il n'y a pas rien à Hong Kong dans ces musiques indépendantes, expérimentales, et pourtant on n'en parle jamais. Donc l'idée, c'était vraiment, avec ce livre, d'essayer de mettre Hong Kong sur la carte et de dire, finalement, voilà, il y a ces choses-là qui se passent ici. Alors, peut-être que ces choses-là, ce sont des petites choses. Peut-être qu'il n'y en a pas autant qu'il pourrait y en avoir, finalement, pour une ville de 7 millions d'habitants. Mais il se passe ça. Et comment ça se fait qu'il se passe ça? Et dans quelles conditions est-ce qu'il se passe ça? C'était le but du livre.
Hong Kong, assez paradoxe. Oui, c'est une ville très dense. Mais pour nous, de qu'est-ce qu'on comprend du reste du monde à l'extérieur de l'Asie, c'est une ville assez business, une ville beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux. Donc, il faut lire le livre afin de savoir comment cette circulation s'opère. Il y a des grands, il y a des noms qui deviennent de plus en plus importants, comme Samsung Yong, si je prononce bien, qui est connu par sa présence, entre autres, à la Biennale de Venise. J'ai vu son installation à la dernière Biennale de Venise d'art visuel. Il est connu à New York, il est connu, il est un peu partout. Donc, il faut faire des ramifications. Et lire le livre. Les chapitres du livre c'est des case studies, comme je peux constater. Donc, il y a un auteur qui parle d'une situation. Et évidemment, le côté DIY, vous en prenez soin. Ça a toujours été un peu une méthodologie que toi et Damien, vous avez poussée. Et toute cette hybridité, le néocolonialisme également. Donc, je pense que... c'est vraiment un livre à suivre et je vais publier le lien sur les réseaux sociaux de Café. Comme ça, vous allez pouvoir voir le sommaire et peut-être la page des matières. Donc, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Donc, merci beaucoup, François. Nous allons suivre tes travaux de recherche et voir aussi sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe à Hong Kong. Il y a beaucoup de petits labs indépendants. Post-pandémie, on verra, ça va refleurir. Mais j'avais déjà identifié quelques labs indépendants, un peu des équivalents de qu'est-ce qu'on connaît ici à Montréal, mais différents, évidemment. Mais ouais, c'est très chouette. Merci beaucoup.
Mais de rien, merci Esther, merci à toi.
The global outbreak of COVID-19 has affected all our lives in various ways, and it has notably drawn our attention to the intensified systemic racism and selective xenophobia towards our racialized friends in our Canadian society. It is understandable for each of us to feel anxious about this fatal disease. However, the sentiment of fear does not give us the right or the opportunity to conduct hate crime and to discriminate against our Asians, Blacks, Indigenous, and other racialized friends. It is not okay to associate the COVID-19 disease with Asians, particularly those of Chinese descent. It is not okay to conduct physical and psychological abuses towards racialized individuals. It is not okay to vandalize Asians and other marginalized owned businesses. We must stop normalizing and stop accepting racist conducts and hate speeches towards all racialized communities. Rather, in these unprecedented times of global pandemic, together, we must educate ourselves and others and be eager to understand race, systemic racism, and racial justice in Canada and elsewhere. Remember, whoever, wherever, and whenever we are humankind. We must learn to stand together as citizens of the world for a healthier, safer, and happier community.
Le Festival international Nuit d'Afrique, présenté par la TD, vous invite cet été à sa 35e édition anniversaire. Soyez au rendez-vous du 6 au 18 juillet pour célébrer pendant 13 jours l'événement des musiques du monde. Cette édition innovante en salle, en plein air et en web diffusion vous propose une fusion entre passé et présent, riche en histoire et découvertes musicales. Découvrez toutes les surprises, infos et billetteries sur festivalnuitdafrique.com.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
De retour à Café sur les ondes de CKUT, c'est Alex qui vous parle. Et comme je le mentionnais en début d'émission, ce soir, je voulais vous présenter la programmation cinématographique de deux salles de cinéma montréalaises. Donc, la première, c'est un petit nouveau qui a fait son apparition durant la pandémie dans le monde cinématographique de la métropole. Donc, il s'appelle le cinéma public. Et il a commencé à proposer une programmation entièrement en ligne durant les derniers mois. Mais depuis la semaine dernière, il a lancé une série de projections sur grand écran dans la cour intérieure du Centre d'art, le Livar, qui va terminer le 22 août prochain. À l'affiche, il y aura plus d'une dizaine de films presque exclusivement québécois, dont Hygiène sociale, Air en sans retour, Wintopia, pour ne nommer que ceux-ci, et aussi... La majorité des films sont présentés avec les cinéastes. Et en fait, c'était le but, un des buts, des cofondatrices du cinéma public, donc Roxane Sayegh et Aude Renaud-Lorrain, donc toutes deux faisant partie de l'équipe du cinéma moderne. Et donc, avec ce cinéma-ci, elle souhaite vraiment poursuivre la mission qu'elle s'était donnée avec le cinéma moderne, soit de rendre le cinéma d'art à Montréal plus accessible et d'arriver vraiment à créer une rencontre entre le cinéma et le public. À terme, les cofondatrices souhaitent ouvrir une salle, mais cette fois-ci, elles souhaitent miser sur un cinéma de quartier excentré du centre de la métropole, toujours dans cette visée d'accessibilité du film d'art et d'essai, et aussi de rendre plus participative l'expérience cinématographique pour le public. Donc vraiment à surveiller. Vous pouvez aller sur la page Facebook du cinéma public ou encore sur leur page Internet. Sinon, je voulais vous parler de la Cinémathèque québécoise qui ouvre un cycle tout à fait estival. En effet, du 1er juillet au 31 août prochain, le cycle musique prend d'assaut la programmation de l'institution tout à fait montréalaise. Restez à l'affût parce que ce cycle s'ouvre sur plusieurs soirées en mode cabaret où seront diffusés pour la première fois des films contraires qui ont été produits au Québec pendant le confinement, donc soit celui de Clopelgag, celui de Mary Davidson et de Godspeed You Black Emperor. Sinon, pour le reste de l'été, la programmation est absolument éclatée et éclectique en passant des films des années 30 à des films d'aujourd'hui et elle puise ses titres dans tous les genres possibles, toujours dans le but de mettre de l'avant la relation que peut entretenir la musique et le cinéma. Sinon, à la Cinémathèque québécoise s'ouvre un cycle tout à fait estival. En effet, du 1er juillet au 31 août prochain, le cycle musique prend d'assaut la programmation de l'institution montréalaise. Restez à l'affût parce que le cycle s'ouvre sur plusieurs soirées en mode cabaret où seront diffusés pour la première fois en salle des films-concerts produits au Québec pendant le confinement. Soit celui de Clopelgag réalisé par Baz, celui de Mary Davidson réalisé par Denis Côté, et finalement celui de Godspeed You Black Emperor, réalisé par leur projectionniste de longue date, Carl Mieux et Philippe Léonard. Et Philippe Léonard, nous étions entretenus avec lui un peu plus tôt cette année.
Et sinon, pour le reste de l'été, la programmation est éclatée et très éclectique en passant des films des années 30 à aujourd'hui, et elle puise ses titres dans tous les genres possibles, toujours dans le but de mettre de l'avant la relation que peut entretenir la musique et le cinéma. Pour l'horaire complet, il suffit d'aller visiter le site web de la Cinémathèque québécoise. Et pour faire honneur au cinéma qui a pris d'assaut beaucoup la musique dans la dernière année, nous allons aller en chanson avec la pièce « Back to Rock » de Marie Davidson, donc tirée de son tout dernier album « Renegade Breakdown ». Et ensuite, nous allons écouter la pièce « Government Came » de Godspeed You Black Empire, tirée de leur tout récent album « Godspeed at States End ». Bonne écoute tout le monde!
These are my parties. I'm feeling kind of sorry. I'm losing all my friends. Make it like it will never end. And when my time is gone, the boys will carry on. I'm going back to rock, baby, it's time to rock. Make it loud, make me blind, you know it's got to shine. And drive me somewhere nice, give me loads of ice. I love my drink real cool. I'm looking for a fool. Until it's 12 o'clock, baby, it's time to rock. You dare to send me away.
De retour à Café sur les ondes de CKUT, c'était la pièce Government Came du groupe Godspeed You, Black Emperor. Et donc, ce soir, je vais vous laisser sur la chanson Rushes Recedes de l'artiste Sarah Davici. Donc, Sarah Davici, qui est une artiste canadienne de musique électronique drone, qui a habité de nombreuses années à Montréal. Maintenant, elle est à LA pour poursuivre son doctorat en musicologie, donc une vraie geek de la musique comme on les aime à CKUT et à Café. Et donc, elle a sorti cette semaine un EP, Rushes Recedes. La piste est un avant-goût de son quatrième album, Antiphonals, sur lequel elle travaille présentement et qui est prévu pour le 10 septembre prochain. Donc, laissez-vous envoûter par les sons oniriques de l'orgue de Sarah Davici. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine.
Amigos, bienvenidos a nuestra emisión quincenal, escuchando América Latina, aquí en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina, ¿eres tú?
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina, somos nosotros.
Argentina,
Bolivia,
Brasil,
Chile,
Costa Rica,
Colombia,
Cuba,
Ecuador,
El Salvador,
Guatemala.
América. Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay,
Perú,
República Dominicana,
Uruguay,
Venezuela.
Todo este tiempo pasó.